L'Atelier Blanc, votre espace d'art contemporain à Villefranche-de-Rouergue. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une exposition.
Il y a des articulations, des différences et des ruptures et de la continuité, tout ça en même temps.
Je voulais prouver qu'on pouvait faire de la sculpture avec des outils traditionnels qui étaient quand même contemporaines.
Qu'est-ce qui clôt la liberté en fait, ou le rêve? Voilà, on essaye d'enfermer ça dans une structure.
C'est comme s'il y avait des mains qui s'ouvraient, on disait viens.
On va arriver au rez-de-chaussée de l'Atelier Blanc.
Toutes les actualités de l'Atelier Blanc et du Moulin des Arts de Saint-Rémy sont dans le MAG à 12h et 17h.
Nous nous retrouvons aujourd'hui à l'Atelier Blanc dans le cadre de la Biennale Céramique pour présenter l'exposition de Damien Cabanne, Sans émail. Bonjour Damien.
Bonjour.
Alors nous sommes tous les deux assis à l'étage de l'Atelier Blanc face à une installation, une vingtaine de sculptures en terre cuite. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce paysage qui se déploie devant nous?
Oui, c'est un ensemble de sculptures que j'ai faites il y a une dizaine d'années, qui sont présentés sur un long plateau de 80 cm de haut et de 12 mètres de long. Elles sont présentées à la queue leu-leu. La salle d'expo est toute en longueur, donc le mode de présentation cette fois-ci a été pensé par rapport à la salle, c'est-à-dire qu'il est tout en longueur aussi. Les visiteurs se mettent aussi devant en couloir, devant les sculptures. Et les sculptures, on peut les voir aussi comme reflet des gens qui viennent les regarder. Donc il y a un face-à-face qui est fort. Ce mode de présentation a privilégié le face-à-face.
Oui, il y a un effet miroir, effectivement. Après, il y a un traitement qui est assez particulier pour les gens qui pratiquent la terre dans la technique. On est dans le principe de l'ajout et non pas de l'enlèvement, pour avoir pas mal pratiqué l'argile moi-même. Donc, ce qui fait qu'on a toutes les empreintes, vos empreintes, qui se posent sur l'ensemble des corps. Et en même temps, moi, la première fois que j'ai vu, par exemple, Ande debout, qui est juste face à nous, justement, j'ai eu cette impression de me retrouver face à un corps écorché. Et on n'est pas dans ce traitement du lissage de la peau en imaginant l'intérieur du corps, on est vraiment dans le corps, avec cette vibration, ce qui donne aussi cette force-là. Et le fait aussi que l'ensemble de la vingtaine de sculptures qui sont devant nous n'ont pas d'émotion dans le traitement du visage, qui pourrait nous ramener à une intimité de la personne de Ande ou de Araba, que l'on retrouve souvent, ou de Sarah, il y a un traitement égal par rapport au visage. Ce qui fait aussi que cet effet de miroir, pour moi, est encore accentué.
Donc, en ce qui concerne le traitement, oui. Donc, c'est de la terre à cuire, c'est des terres cuites, et c'est pas de la terre à modeler. Donc, la terre cuite, on peut pas y mettre d'armature à l'intérieur. Parce que l'armature, elle peut pas brûler au four. Donc c'est de la terre à cuire, il faut que ça soit creux. Donc pour faire tenir la terre, il y a un système de broches que j'ai inventé qui s'enlève au fur et à mesure du séchage, mais néanmoins, c'est toujours creux. Donc c'est le vide qui sert d'armature, qui donne la solidité à la pièce, mais qui donne la fragilité aussi au moment du travail, parce que la terre n'est pas sèche et elle est flexible. Donc on peut voir certains bourrelets, c'est la terre qui s'affaisse. Donc grosso modo, ma manière de travailler, c'est avec des grandes plaques, c'est pas par colombin où j'attends 3 jours et je monte, 3 jours et je monte comme on le fait normalement dans la céramique. Ils montent progressivement, ils attendent que la terre sèche pour qu'il y ait une base solide et ils montent progressivement. Moi, je veux travailler d'une seule séance et pouvoir monter une sculpture en 1 heure. Donc, il y a un système de broches et c'est des grandes plaques, c'est pas des colombins, c'est des grandes plaques. Je bats ma terre au sol, c'est des grandes plaques que j'enroule pour avoir grosso modo un creux et une forme assez vague du modèle. Et après, à la boulette, je travaille le modelé avec plus de détails. C'est-à-dire des rajouts de petites boulettes de terre. Donc il y a un côté un peu très vibrant, un peu, on pourrait presque dire impressionniste. Et je jouis du modelé. Alors le modelé, c'est les passages entre le creux et les pleins, et tout l'ensemble des passages. J'aime beaucoup ressentir au fond de moi-même la beauté du modelé, parce que le modelé se fait par la lumière. En modelage, la sculpture est beaucoup plus la lumière. est beaucoup plus importante encore que dans la peinture, parce que c'est la lumière qui fait tout dans la sculpture. On peut faire un noir avec un creux, et donc c'est hyper important d'avoir une bonne lumière. Le côté assez brut, je pense qu'il y a trois réalités superposées, et à la fin et au bout du compte, ces trois réalités n'en font qu'une, c'est celle de la sculpture. Donc les trois, ces réalités, c'est le modèle qui est devant moi. Bon, je tiens à dire que il y a toujours le modèle. J'aime pas ce mot parce que c'est pas des modèles professionnels, mais c'est des gens de tous les jours, des amis, des enfants d'amis, etc. C'est pas des gens qui ont déjà posé dans des écoles d'art ou je sais pas où. Donc il y a la réalité du corps de cette personne, de la présence aussi. Il y a la réalité du matériau qui est très forte. Donc comme je disais, il y a la terre qui s'affaisse un peu, en séchant ça se fend. Donc il y a le côté très brut de la terre, très présent, et je lutte pas contre. Au contraire, j'essaie de l'exploiter, ça fait partie de la réalité.
C'est un dialogue, en fait.
Un dialogue, voilà. Et la troisième, c'est mon corps et mes mains en train de travailler la terre. Donc l'émulsion de ces trois choses crée une seule chose qui est la sculpture. Donc au point de vue de l'expression, j'ai un passé d'abstraction, dans l'abstraction pendant plusieurs décennies. Donc avant tout pour moi, une sculpture ou une peinture, c'est un ensemble de formes, de valeurs, de couleurs, de proportions, plus que le côté littéraire d'un visage qui veut dire quelque chose. Donc là, les choses ne parlent pas, mais expriment. Voilà. Donc il n'y a pas une analyse de la forme comme chez certains sculpteurs. Moi je fonctionne pas comme ça, mais plutôt par la rapidité, la sensation générale qui s'affine petit à petit au cours du travail, mais qui reste quand même assez brute. C'est pas les mêmes parties du cerveau, celles qui analysent ou celles qui travaillent de cette manière. Voilà, c'est... Donc chaque artiste fait en fonction des facultés qu'il a en lui. Moi, mes facultés, peut-être que cette partie du cerveau, je suis pas neurologue, hein, mais elle est plus importante que l'autre. Donc on fait avec. Voilà.
Est-ce qu'on pourrait faire un petit glissement, se dire qu'il y a une part d'autoportrait dans tout cela ? Ou pas du tout ? C'est vraiment dégagé ?
Vous disiez que les visages n'expriment pas tellement, mais la sculpture exprime par la matière, partout, par la présence. Donc j'y mets beaucoup de moi-même, et bien évidemment. Je crois même que d'une certaine manière, quoi qu'on fasse, c'est toujours plus ou moins un autoportrait.
Après,
c'est mon double, parce que c'est des figures humaines, c'est mon double. Il y a un face-à-face très fort avec le modèle qui me rend... C'est deux consciences qui se rencontrent. Et la conscience de la personne qui pose me renvoie à ma propre conscience. Oui. On est l'autre de l'autre, quoi. Et c'est ça qui exprime les sculptures.
Oui, quand je disais que ce n'est pas expressif, ce n'était pas dans un sens négatif. C'est se dire que c'est une force. Ça ne nous parle pas de l'individu, mais de l'humain dans sa généralité, dans son espèce. Après... Si je me souviens bien, en 2010, vous aviez déjà présenté des sculptures d'après modèle, qui là étaient émaillées, par contre, puisque là on est dans la matière brute, cuite, sans couleur. Et on sait l'importance de la couleur dans votre travail. À quel moment vous avez décidé de l'abandonner ? Et quel a été justement l'abandon, le sujet de cet abandon de la couleur ?
La couleur, on l'attribue toujours... un des attributs majeurs de la peinture. Moi, j'ai longtemps fait des sculptures polychromes dans mes périodes abstraites et aussi dans les figures. Et je dis toujours aux gens que la couleur, c'est aussi un élément fondamental de la sculpture. Ça a des propriétés spatiales, de proportion. Un volume peint d'une couleur ou d'une autre peut paraître plus grand suivant la coloration, ou plus petit, plus loin, plus proche. Donc ça a des qualités spatiales très fortes. Il ne faut pas oublier que toute la sculpture antique, le Parthénon était entièrement peint. La sculpture du Moyen-Âge, toutes les façades étaient entièrement peintes. Donc il y a eu après au cours, l'archéologie n'était pas très développée, il y a eu une idée un peu fausse que la sculpture c'était du marbre blanc, mais c'est une idée fausse, la sculpture était très colorée. Donc mes premières sculptures abstraites étaient très colorées, elles n'ont jamais été monochromes. Et après, quand j'ai attaqué la figure, comme je disais, la beauté des volumes et de la lumière qui circule était suffisamment forte pour ne pas avoir besoin de rajouter la couleur. Ceci dit, la moitié de ces sculptures sont peintes, émaillées plutôt. Pourquoi ? C'est celle dont le modelage est moins bien réussi que j'ai choisi de... d'y intégrer la couleur pour qu'elle puisse avoir un rôle à jouer. Si le modelé est parfait, ça sert à rien de rajouter de la couleur. Ça fait un pléonasme. On dit deux fois la même chose sur la même chose pour le même volume. S'il y a un manque, ça laisse. C'est très important qu'il y ait un manque pour laisser à la couleur un rôle à jouer. Voilà, donc j'ai parfois essayé de peindre ces terres, mais la peinture en elle-même c'est pas assez puissant comme couleur par rapport à la brutalité de la matière, donc j'ai pris ce qui convient en général pour la céramique, c'est-à-dire les émaux, les engobes et les émaux.
D'accord. Après c'est tout le jeu, ce que vous disiez tout à l'heure, tout le jeu de lumière aussi qui vient elle aussi travailler finalement la couleur et donner toute une variété de nuances. Quelles sont les réactions des modèles, justement, ou des personnes qui posent pour vous, et l'émotion qui remonte quand elles voient les portraits réalisés ?
C'est pas neutre. Comme je disais, c'est pas des gens qui ont l'habitude de poser, qui n'ont jamais posé avant. Je prends jamais des modèles professionnels parce qu'elles ont des poses stéréotypées qu'on leur impose dans les cours d'art, dans les écoles d'art, des codes qui, soi-disant, imitent un peu les postures des statues, des musées. Donc moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc c'est pas neutre. Une séance de pose, c'est pas du tout neutre. Donc il y a des réactions très différentes suivant les personnes. Par exemple, cette personne-là, elle était stagiaire dans ma galerie et son premier jour de stage, mon galeriste l'envoie à mon atelier pour faire un communiqué de presse. Donc elle arrive, elle veut que je lui parle de mon travail. Alors je lui dis, le mieux pour vous, c'est d'expérimenter le travail en étant partie prenante, c'est-à-dire en posant pour moi.
C'était de l'éprouver.
Voilà, de l'éprouver. Donc elle devait peut-être être aussi dans une situation psychologique un peu difficile. Au cours de la pause, elle s'est mise à sangloter en voyant son image apparaître. Oui. Et après, elle est sortie radieuse.
Après, il y a ça, on sent dans la plupart des personnes qui ont posé, et de ce fait des sculptures qui sont devant nous, ce moment de lâcher prise. Où la fatigue de la tension, des premiers moments de tension est là et vient le lâcher prise. Et ça, on le ressent très fort dans les sculptures. Et ça donne vraiment une émotion qui est vraiment très, très particulière. Une fragilité.
Avant de commencer une sculpture, je regarde, je fais semblant de préparer mes affaires, mes outils, ma terre et tout. J'ai un petit œil sur le modèle sans qu'il s'en rende compte pour pouvoir capter une pose naturelle. Qui prennent pas une pose croyant être une pose idéale pour avoir une belle statue après. Donc ils sont un peu, je leur dis tot, ne bouge plus à tel moment, ils sont un peu surpris. Et voilà, j'attrape les poses comme ça. Et pour pas qu'on ressente une fatigue, j'essaye de travailler le plus vite possible.
Ouais. Ça fait penser aussi, on parlait du traitement tout à l'heure, je me rappelle dans mes cours d'histoire de l'art, qui sont maintenant un peu loin, Picasso qui disait que pour retrouver aussi la simplicité du geste, s'accorder la simplicité du geste, il lui a fallu des années de travail pour retrouver ça, de désapprendre. Est-ce qu'il vous a fallu aussi un travail pour s'autoriser peut-être à à accepter la chose brute, à la donnée brute.
Donc vous citez Picasso, mais c'est un cas particulier parce que Picasso, il a une énorme culture. C'est le peintre le plus classique, oui, dans le sens le plus strict du mot, du XXe siècle. Il a un peu chahuté les canons. Mmh. Bon, il a beaucoup choqué parce qu'il venait après les impressionnistes où c'était un petit moment de bonheur avec des petites fleurs partout, des vibrations, le soleil. Picasso, c'est les grands sujets tragiques. Il y a un sens en lui qui viennent du classicisme avec des schémas classiques mais très bien digérés. Oui, c'est pas très... pas du tout académique. Qui découle de Nicolas Poussin, de l'art grec, de l'art romain. Donc Picasso, il avait peut-être besoin pour chahuter, il a peut-être besoin de beaucoup de temps pour chahuter. Ceci dit, ses œuvres, quand il avait 10 ans, il dessinait aussi bien, peut-être presque mieux que Michel-Ange. Voilà, bon, Picasso, c'est un cas particulier. Donc moi, je n'ai pas eu cet apprentissage. Il n'y avait pas d'apprentissage classique. Mai 68 était passé aux Beaux-Arts avant que j'y rentre, qui avait tout balayé ça. Bon, après, il y a peut-être eu un académisme contemporain qui est arrivé après. Et moi, j'étais dans cet entre-deux, donc il y avait une totale liberté. Ceci dit, moi, je ne peux jamais travailler dans le labeur. Et certains artistes ont besoin de ça, d'une analyse, d'un labeur, d'un long travail. Moi, ça doit couler de source. Ceci dit, pour trouver la bonne source, il faut forer un peu dans tous les sens pour que la source jaillisse ou que le filon dans une mine apparaisse.
Oui. Il faut expérimenter, voilà, beaucoup.
Mais je ne peux pas saisir la source et la provoquer, la faire sortir moi-même. Je peux juste forer et attendre qu'elle arrive. Et quand elle arrive, il y a toute une boulimie d'œuvres d'art, d'œuvres qui jaillissent parce que je suis tombé sur la bonne source. Donc dans mes différentes périodes, il y a un côté très sériel parce que je suis sur la bonne source qui a provoqué. Alors des fois, elle se tarit un peu, donc j'essaye d'en trouver un autre prétexte, une autre source et qui reprovoque une nouvelle série, voilà.
Oui, il y a ce besoin après de voir jusqu'où nous amène le dialogue aussi avec la matière. Est-ce qu'on peut maintenant se diriger vers le rez-de-chaussée pour voir la seconde partie de l'exposition ?
Allons-y.
Donc au rez-de-chaussée, nous avons aussi une série de portraits et également une gouache. Un paysage, là, qui est traité en gouache couleur. Voilà, nous descendons les escaliers. Et nous allons rentrer dans la seconde partie de la galerie. Donc là, Damien Cabane, j'aimerais bien qu'on cible un petit peu une des œuvres que vous proposez dans ce second espace. C'est La mère et l'enfant, qui a un traitement un peu particulier, parce que tout à l'heure, vous me disiez dans le protocole que vous travaillez autour du vide, à partir du vide. Et là, dans cette partie-là, le vide existe vraiment. Il est vraiment visible. Et on a quelque chose qui est très présent, cette mère et l'enfant, qui paraît flotter un petit peu. Et elle paraît l'envelopper. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette œuvre ?
Oui, cette œuvre est spéciale d'abord dans cette exposition. C'est la seule sculpture où il y a deux personnages, mais qui n'en font qu'un. C'est un bébé de quelques semaines, ou peut-être quelques mois, je ne sais plus, dans les bras de sa mère. Donc c'est peut-être un seul corps, mais tout en étant deux. Donc les espaces entre les deux ne sont pas les mêmes que dans un truc plus monolithique qu'il y a dans les autres sculptures. La mère doit tenir le bébé, il y a le bras de la mère, les espaces entre. Un autre élément dans la réalisation de cette sculpture, c'est qu'elle a été faite en quelques secondes. Je ne dis pas minutes, secondes. Un bébé, ça ne peut pas rester longtemps. Elle le tenait, essayer de le calmer pour pas qu'il bouge, mais il fallait, c'est quelques secondes. Donc j'avais fait une sculpture, et là, il n'en reste plus que quelques fragments, parce que je n'ai pas pu mettre la consolider et travailler correctement la terre pour qu'elle puisse tenir. Donc en séchant, elle s'est beaucoup cassée. Mais le hasard souvent fait les choses. Ça a amené, fait rentrer l'espace à l'intérieur de la sculpture. Et Et bon, là, le hasard, les accidents, je les ai exploités et ils ont été très heureux.
Oui, voilà. C'est aussi de se laisser surprendre et de l'accepter, effectivement. Vous disiez dans un entretien que j'ai lu récemment qu'une pièce, une œuvre était achevée pour vous quand elle était musicale. Si on regarde l'ensemble des œuvres présentées de Sans Émail, quelle serait la musique qui s'en dégagerait ?
Ça je peux vous. Bon, peut-être que ça va paraître d'échapper à la question, mais je crois pas. C'est celle que vous entendez quand vous la regardez. Donc j'invite à venir la regarder. Oui, parce que la sculpture, il y a un côté très matériel. La musique, il y a un côté plus immatériel, parce que la musique, ça a plutôt à faire avec le temps, et la peinture avec l'espace. Une peinture réussie ou une sculpture réussie ou une œuvre d'art plastique réussie, c'est quand on oublie la matérialité et qu'il reste plus qu'une espèce de musique, qu'une espèce d'émotion,
de sensation,
Dont on oublie la matière. Et paradoxalement, celles peut-être qui sont le plus immatérielles à la fin, c'est-à-dire dont on oublie le plus la matière, c'est celles qui au moment du travail ont été le plus, la matière a été le plus investie, parce que mon émotion c'est vraiment est vraiment incarnée dans la matière elle-même. Moi, j'aime beaucoup ce qui est le plus beau dans l'art, c'est de pouvoir, et en particulier dans les arts plastiques, c'est pouvoir incarner une émotion dans une matière. Après, ça, c'est une espèce de miracle, on ne peut pas analyser, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi un ensemble de deux formes, ça crée une émotion, ou un rapport de deux couleurs, voilà.
Je crois que c'est de jolis mots pour terminer cet entretien, et j'espère que nous avons donné envie aux auditeurs de venir voir cette exposition, qui sera visible à l'Atelier Blanc jusqu'au 2 décembre. Et lors de ce temps d'exposition, vous seront proposées des visites accompagnées le dimanche 30 septembre à 15h, le vendredi 26 octobre et le 23 novembre à 18h, ainsi qu'un atelier pour enfants le 25 octobre de 10 à 12h. On vous souhaite une jolie journée et au plaisir de vous recevoir bientôt à l'Atelier Blanc. Merci beaucoup Damien Cabane.
Merci à vous.
L'Atelier Blanc, votre espace d'art contemporain à Villefranche-de-Rouergue. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une exposition.
Il y a des articulations, des différences et des ruptures et de la continuité, tout ça en même temps.
Je voulais prouver qu'on pouvait faire de la sculpture avec des outils traditionnels qui étaient quand même contemporaines.
Qu'est-ce qui clôt la liberté en fait, ou le rêve, voilà, on essaye d'enfermer ça dans une structure.
C'est comme s'il y avait des mains qui s'ouvraient, on disait viens.
On va arriver au rez-de-chaussée de l'Atelier Blanc.
Toutes les actualités de l'Atelier Blanc et du Moulin des Arts de Saint-Rémy sont dans le mag à 12h. Et 17h.